Alors, nous avons commencé il y a quelques semaines maintenant un parcours dans le livre de l'Exode. Nous continuons ce matin. Nous sommes en plein dans les plaies d'Égypte. Vous connaissez sûrement ces différentes plaies. C'est vrai que les histoires de la Bible, qui sont souvent assez extraordinaires, ont donné lieu à beaucoup de films, à beaucoup de comédies aussi. Vous avez peut-être en tête certaines choses que vous avez vues en film ou sur une comédie. On va voir ce matin ensemble si vous avez aussi bien en tête ce que dit vraiment le texte de la Bible et qu'est-ce que ça nous montre de Dieu. Les plaies d'Égypte, ces plaies terribles qui se sont abattues les unes après les autres, se sont abattues selon une séquence que Dieu avait établie. On voit à chaque fois, on a vu ces deux dimanches passés, que à chaque fois Pharaon endurcit son cœur. Mais aussi coupable que cet homme soit, on voit aussi que Dieu agit souverainement et il agit un peu comme s'il était dans les coulisses. Il met Pharaon en garde, il l'invite implicitement à se repentir. C'est comme ça que par l'intermédiaire de Moïse, Dieu va dire à Pharaon, c'est ce que nous lirons notamment ce matin, « Je t'ai laissé subsister, au contraire, afin de te faire voir ma force et pour que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu fais encore obstacle à mon peuple, et si tu ne laisses point partir, etc., etc., et les plaies s'abattront. » Quelque part, on pourrait dire, ce qu'on lit là, dans l'Exode, c'est comme s'il y avait un bras de fer entre Dieu et Pharaon. Le Dieu Tout-Puissant est le despote cruel qu'était le Pharaon. On sait que ça va se finir par l'échec, l'écrasement total du Pharaon et de son armée. Mais si on regarde bien, si on connaît un peu plus l'ensemble de la Bible, on se rend compte que derrière ce combat, il y a une autre guerre, bien plus ancienne, qui se déroule. Celle entre Dieu et Satan. La bataille que l'on voit dans l'Exode, elle oppose le vrai Dieu qui appelle son peuple à lui offrir un culte sur le mont Sinaï, et le faux Dieu, Pharaon. Oui, vous savez, Pharaon était considéré, les pharaons étaient considérés comme des dieux. Ils étaient les fils de la reine qui, soi-disant, s'accouplait avec le dieu Ra ou Ré. Et donc les pharaons étaient considérés comme des fils de Dieu ou des dieux eux-mêmes. Et le Pharaon, lui, à l'opposé de Dieu, veut garder le peuple de Dieu sous son propre contrôle. Dans l'Apocalypse, on retrouve des fléaux qui sont très semblables, pour un certain nombre, aux plaies d'Égypte. On pourrait dire que quelque part, les plaies d'Égypte, c'est un peu comme une sorte de répétition avant la grande générale, celle qui précédera le jugement final de l'humanité. Je vous invite vraiment à lire les chapitres, notamment 15, 16 de l'Apocalypse, où on voit ces fléaux qui sont très similaires à ceux des plaies d'Égypte. Vous vous souvenez peut-être, tout au début du livre de l'Exode, le Pharaon s'est posé en adversaire de Dieu. Comment ? Parce qu'il a notamment donné l'ordre de tuer les nouveau-nés. Et vous vous rappelez, il y avait ces deux sages-femmes qui, subtilement, n'ont pas obéi à l'ordre de Pharaon. Mais quand Pharaon a fait ça, il a lancé un défi à Dieu. Il a notamment lancé un défi à l'ordre créationnel que Dieu avait donné. Dieu avait dit « Multipliez-vous ». Et Pharaon dit « Tuez les garçons nouveau-nés ». Quand on lit les plaies, on voit que finalement, chaque plaie est un peu comme une annulation de la création ou un sorte de renversement. L'eau qui était source de vie devient source de mort. La pluie qui doit arroser, faire croître les plantes, détruit les récoltes avec la grêle. Les animaux font du tort aux humains au lieu de les servir. La lumière cesse et les ténèbres la remplacent. Et finalement, ce ne sera pas le thème d'aujourd'hui, mais la dernière plaie, les premiers-nés des hommes, l'homme qui était le sommet de la création, eh bien, ces premiers-nés seront tués. En même temps, comme Guillaume nous rappelait ce matin, notre Dieu est un Dieu de victoire. Chaque plaie est interrompue, elle laisse finalement éclater la puissance de Dieu, la puissance créatrice de Dieu. Dieu est celui qui sauve, celui qui tient en échec le chaos, mais qui, s'il le désire, peut se mettre en retrait et laisser le chaos tourmenter ses ennemis. Je me souviens, c'était il y a 5 ans, je crois, quand Jean-Jacques était en stage chez nous. Il avait prêché sur Romains et il avait donné cette image que j'ai gardée et qui s'approprie vraiment aussi à une bonne compréhension de ce qu'on lit dans l'Exode. Il avait dit finalement, le monde c'est un peu comme un ballon de baudruche. Un ballon de baudruche qui aurait plein de trous. Un ballon de baudruche qui a plein de trous, si vous le laissez partir, ça fait comment? Ça part en sucette. Dieu tient le monde dans sa main, et il a plus que 10 doigts, et il bouche tous les trous qui feraient que le monde partirait beaucoup plus vite à sa perte. Quand Dieu se retire, quand Dieu lève, c'est-à-dire la main, mais un doigt suffit, des catastrophes s'abattent sur la terre. Quand Dieu se retire, c'est le jugement de Dieu. Dans Romains 1, il est dit que Dieu les a livrés. Il s'est comme retiré. Les plaies d'Égypte, c'est un peu la même chose. Dieu, et on le lit, Dieu livre Pharaon. Et le mal se déchaîne. Dans les 3 plaies que nous lirons aujourd'hui, c'est la 7e, la 8e, la 9e, nous allons voir 3 choses. La première, c'est que la grâce de Dieu, qui fait face à la dureté du cœur humain, est finalement le seul remède pour le cœur humain. Nous verrons aussi quel est le message de Dieu que Dieu avait pour les siens, pour son peuple. Il n'avait pas qu'un message pour Pharaon. Et nous verrons aussi que dans l'annonce du jugement final, il y a en même temps l'annonce d'une vraie solution à la rébellion des hommes. Alors je vous propose de lire ensemble, c'est au chapitre 9, à partir du verset 13. La 7e plaie, le 7e fléau, la grêle. Alors je vais lire dans la version Summer, il m'a semblé qu'elle était plus facile pour bien comprendre le texte qui des fois, quand on lit peut-être en autre version, en tout cas pour moi, m'a semblé des fois plus énigmatique, et j'ai trouvé que la version Summer était plus, donnait mieux à comprendre et explicitait mieux le texte de la parole. Donc si vous n'avez pas la version Summer, éventuellement vous pouvez lire en même temps ou sinon tout simplement écouter la lecture de la parole de Dieu. L'Éternel ordonna à Moïse, « Va de bon matin te présenter devant le Pharaon et dis-lui, « Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Car cette fois-ci, je vais déchaîner toutes sortes de fléaux contre ta personne, contre tes hauts fonctionnaires et contre tes sujets, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. J'aurais pu tout de suite te frapper de la peste, ainsi que tes sujets, et tu aurais déjà disparu de la terre. Mais voici pourquoi je t'ai laissé en vie. C'est pour te faire voir ma puissance et pour que ma renommée se répande par toute la terre. Tu persistes à t'opposer au départ de mon peuple, soit demain, à la même heure, je ferai pleuvoir une grêle si violente qu'il n'y en a jamais eu de semblable dans toute l'histoire de l'Égypte. Maintenant, fais mettre à l'abri ton bétail et tout ce que tu as au champ, car tous ceux qui se trouveront en plein champ, qui n'auront pas regagné leur demeure, hommes ou bêtes, périront victimes de la grêle. Ceux des hauts fonctionnaires du Pharaon qui prirent au sérieux la parole de l'Éternel firent mettre en hâte leurs serviteurs et leur bétail à l'abri dans leur maison. Mais ceux qui n'y prêtèrent pas attention laissèrent les leurs dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, étend la main vers le ciel et que la grêle s'abatte sur toute l'Égypte, sur les hommes, les bêtes et toute la végétation dans le pays. Moïse leva son bâton vers le ciel et l'Éternel déchaîna le tonnerre et la grêle et la foudre s'abattit sur la terre. L'Éternel fit tomber la grêle sur l'Égypte. Des éclairs jaillissaient au milieu de la grêle et la grêle était si violente qu'il n'avait jamais eu de semblable dans toute l'Égypte depuis que la nation existe. Dans l'ensemble du pays, la grêle frappa tout ce qui se trouvait au champ, homme ou bête. Elle hacha toute la végétation et brisa tous les arbres. Seule la région de Goshen, où habitaient les Israélites, fut épargnée. Alors, le Pharaon fit convoquer Moïse et Aaron et leur dit « Cette fois-ci, je reconnais que j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste, moi et mon peuple, nous sommes coupables. Priez l'Éternel de faire cesser le tonnerre et la grêle, et je vous laisserai partir. On ne vous retiendra pas davantage. » Moïse dit « En quittant la ville, je lèverai les mains vers l'Éternel pour prier. Le tonnerre cessera et la grêle s'arrêtera, afin que tu saches que la terre appartient à l'Éternel. Quant à toi, tes hauts fonctionnaires, je sais que vous n'obéirez pas, encore pas à l'Éternel Dieu. Le lin et l'orge avaient été détruits, car l'orge était en épi et les lins en fleurs, mais le blé et l'épeautre, qui étaient plus tardifs, n'avaient pas souffert. Moïse sortit de chez le Pharaon. En quittant la ville, il leva les mains vers l'Éternel pour prier. Le tonnerre et la grêle cessèrent et la pluie arrêta de tomber. Quand le Pharaon vit que la pluie, la grêle, le tonnerre avaient cessé, il persista dans son péché et s'entêta. Ses hauts fonctionnaires firent de même. Il s'obstina et ne laissa pas partir les Israélites comme l'Éternel l'avait annoncé par l'intermédiaire de Moïse. C'était le septième fléau. Huitième fléau, les sauterelles. L'Éternel dit à Moïse, « Va trouver le Pharaon, car c'est moi qui ai fait qu'il s'entête, ainsi que ses hauts fonctionnaires, afin d'accomplir mes signes miraculeux au milieu d'eux, et afin que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes miraculeux j'ai accomplis au milieu d'eux. Ainsi vous saurez que je suis l'Éternel. » Moïse et Aaron se rendirent donc chez le Pharaon et lui dirent, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Combien de temps encore refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses de le laisser partir, dès demain, je ferai envahir ton territoire par les sauterelles. Elles recouvriront complètement le pays au point qu'on ne pourra plus voir le sol. Elles dévoreront ce qui a échappé à la grêle et tous les arbres qui poussent dans vos campagnes. Elles envahiront ton palais, les maisons de tous tes hauts fonctionnaires et celles de tous les Égyptiens. Jamais tes pères, ni tes ancêtres les plus lointains, n'ont rien vu de pareil depuis qu'ils occupent ce pays. » Là-dessus, Moïse tourna le dos au Pharaon et sortit de chez lui. Les hauts fonctionnaires du Pharaon lui dirent, « Combien de temps encore cet homme va-t-il faire notre malheur? Laisse donc partir ces gens pour qu'ils rendent leur culte à l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte court à sa ruine ?» On rappela Moïse et Aaron auprès du Pharaon qui leur dit, « Allez, allez rendre un culte à l'Éternel, votre Dieu. Mais quels sont ceux qui iront ?» Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, nos fils et nos filles, nous emmènerons notre petit et notre gros bétail, car nous allons célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le Pharaon répliqua, « Que l'Éternel soit avec vous lorsque je vous laisserai partir avec vos enfants. Il est clair que vous avez de mauvaises intentions. » Mais ça ne se passera pas ainsi, que seuls les hommes aillent rendre un culte à l'Éternel, puisque c'est là ce que vous me demandez. Sur quoi on les chassa de chez le Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur l'Égypte pour y faire venir les sauterelles. Qu'elles envahissent le pays, qu'elles dévorent toute la végétation du pays pour ce que la grêle a épargné. » Moïse leva son bâton sur l'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays, tout ce jour-là et toute la nuit. Le lendemain matin, le vent avait amené les sauterelles. Elles s'abattirent sur toute l'Égypte et se posèrent sur tout le territoire en si grand nombre que jamais on n'avait vu et jamais on ne reverra pareil fléau. Elles recouvrirent tout le pays. La terre fut obscurcie. Elles dévorèrent toute la végétation, tous les fruits des arbres qui subsistaient après la grêle, de sorte qu'il ne resta aucun brin de verdure, ni aux arbres, ni dans les champs de toute l'Égypte. Le Pharaon fit convoquer d'urgence Moïse et Aaron et leur dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Maintenant donc, pardonne, je te prie, mon péché cette fois encore, et prie l'Éternel, votre Dieu, pour qu'il me débarrasse de ce fléau meurtrier. » Moïse sortit de chez le Pharaon et pria l'Éternel, et l'Éternel fit souffler un violent vent d'ouest qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des roseaux. Il n'en resta pas une seule sur tout le territoire de l'Égypte, mais l'Éternel rendit obstiné le cœur du Pharaon qui ne laissa pas partir les Israélites. Neuvième fléau, les ténèbres. L'Éternel dit à Moïse, lève la main vers le ciel et que l'Égypte soit plongée dans les ténèbres, de sorte que l'on doive y tâtonner. Moïse étendit la main vers le ciel et le pays d'Égypte fut entièrement plongé pendant 3 jours dans les ténèbres opaques. Pendant ces 3 jours, on ne se voyait plus l'un l'autre et personne ne bougeait de l'endroit où il se trouvait. Par contre, il y avait de la lumière dans les lieux habités par les Israélites. Le Pharaon fit convoquer Moïse et lui dit, allez rendre un culte à l'Éternel, vos enfants pourront vous accompagner. Seuls votre petit et votre gros bétail resteront ici. Moïse répliqua, c'est toi-même qui nous fourniras les animaux pour les sacrifices et les holocaustes à notre Dieu. Et en plus, nos troupeaux nous accompagneront. Pas une bête ne restera ici, car nous choisirons dans notre cheptel des victimes pour les offrir à l'Éternel, notre Dieu. Tant que nous ne serons pas arrivés là-bas, nous ne serons pas nous-mêmes ce que nous offrirons pour le culte de l'Éternel. Mais l'Éternel rendit le cœur du Pharaon obstiné, de sorte qu'il refusa de laisser partir le peuple. « Va-t'en d'ici, cria-t-il à Moïse, et prends garde, ne reparais plus jamais en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » Moïse répondit, « Tu l'auras voulu, je ne reparaîtrai plus en ta présence. » Je me permets de boire un petit verre. Alors, je me souviens, c'était un mercredi après-midi. J'étais allé avec Florian et Corentin chez un spécialiste ORL dans les Vosges. On était en train de rentrer. On arrivait vers Belfort et la pluie commençait à être forte. De plus en plus forte. La pluie se transformait en grêle. Tout le monde commençait à ralentir. Puis tout d'un coup, l'autoroute, on était au niveau de Brognard, l'autoroute commençait à être presque déserte, ou plutôt, il n'y avait plus de voitures sur la route, mais toutes les voitures s'étaient stationnées sous les ponts pour se protéger de la grêle. Ça tapait fort. Les plocs-plocs étaient devenus plus que du boum-boum. Et puis, ça a duré quelques minutes. La grêle est passée. Et on a pu continuer et rentrer. Et puis, en arrivant à Montbéliard, sur le rond-point du Pied des Gouttes, je me dis, mais c'est quoi ces grosses boules blanches sur le rond-point? Et je voyais des gens qui s'arrêtaient pour ramasser les boules. Je comprenais pas. On habitait à l'époque au centre-ville de Montbéliard, dans l'appartement, dans le presbytère au-dessus de l'église, à La Bonne Nouvelle. Et j'arrive dans le centre-ville, et là, vision d'horreur. Il y avait des voitures qui n'avaient plus de toit, plus de vitres, mais qui avaient un toit de maison dessus. Il y avait des tuiles de partout. C'était un mercredi après-midi, le 9 juin 2010. Je pense qu'il y a peut-être encore des gens ici qui ont une voiture avec des impacts de la grêle, non? Qui a encore une voiture avec des impacts? Parce que je sais que je connais des gens qui ont gardé la voiture dans l'état. Non, tout le monde a fait réparer sa voiture. Okay. Il y a beaucoup qui travaillent chez Peugeot alors. C'était la seule fois, et j'espère que ce sera la dernière, où j'ai connu une grêle aussi forte. C'était pas fini. Parce qu'en arrivant au centre-ville, je me dis, mais attends, Sophie, elle est toute seule dans l'appartement. Sophie était enceinte de 7 mois et demi. L'appartement, il y avait des Velux. Il y avait des puits de lumière de 2 mètres par 2 mètres. Je me dis, mais attends, ça n'a pas dû tenir. Et comme m'a rappelé ce matin Sophie, elle a dû jouer un peu à Lara Croft pour redescendre dans la salle de culte et se mettre à l'abri. Et éviter tous les bris de verre qui explosaient dans l'appartement. Ça, c'était la grêle à Montbéliard. La parole nous dit, le Dieu nous dit que la grêle en Égypte, ça a été encore pire. La grêle dans la Bible, C'est toujours présenté comme un moyen de punir les méchants. Et d'ailleurs, dans cette plaie de la grêle, le pharaon, pour la première fois, va reconnaître qu'il est coupable, littéralement qu'il est le méchant. Dans cette nouvelle série de trois plaies, on retrouve la même structure que les deux séries précédentes de trois plaies. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Jacques nous avait expliqué, à chaque fois il y a une première plaie où Dieu envoie Moïse de bon matin vers Pharaon. Première plaie, quatrième plaie, septième plaie. Petite différence ici, Pharaon n'était pas au bord du Nil en train de se promener, avec les ulcères et compagnie qu'il a eu avant, peut-être que c'était un peu compliqué. Mais on retrouve une nouvelle série de plaies. Cette plaie-là est particulière quand même parce que Dieu dit, elle sera contre toi, contre ta personne, littéralement contre ton cœur. Cette histoire va devenir une histoire de cœur. Pas comme le mariage hier après-midi. Une histoire de dureté de cœur. Dieu rappelle le but de ces plaies. C'est pour que sa puissance éclate au grand jour, pour que le pharaon reconnaisse qui est Dieu. Nous avons là le Dieu de colère, le Dieu saint. Mais comme toujours dans la Bible, parfois on aimerait parler que du Dieu d'amour, ou des fois on ne parle peut-être que du Dieu de colère, mais dans la Bible, le Dieu de colère est toujours aussi le Dieu d'amour. Et dans cette plaie, on le voit parfaitement bien. Dieu est en train de juger, et chose extraordinaire, Dieu dit, Dieu donne un conseil au pharaon pour qu'il évite les conséquences de la plaie. Il lui dit, mais mets à l'abri, et dis à tes gens de mettre à l'abri les gens qui sont au champ, les animaux. C'est la grâce de Dieu. Pour toucher un cœur qui est dur, il n'y a qu'une solution. C'est la grâce de Dieu. On verra ici, ça ne suffira pas à Pharaon. Mais il n'y a pas d'autre moyen qui soit bon et pas d'autre moyen que Dieu utilise que sa grâce pour faire plier, pour ramollir le cœur d'un homme ou d'une femme. Dans cette plaie, il n'y a plus les magiciens, comme avant. Il n'y a plus les magiciens pour faire pareil ou imiter ou pour dire « mais c'est le doigt de Dieu ». Non, ceux-là, ils ont disparu. Mais il y a certains serviteurs, ou plutôt hauts fonctionnaires, des gens qui étaient autour du pharaon, qui ont quand même entendu ce qu'a dit le conseil que Dieu a donné au trait de Moïse, qui, la parole nous dit, craignent l'Éternel, la parole de l'Éternel, et qui font le choix de mettre à l'abri. Il nous a dit aussi que d'autres n'ont pas fait le choix. Devant la grâce de Dieu, il n'y a que deux choix possibles, les deux là. Soit j'entends et j'obéis et je prends en considération. Soit j'entends et je n'en tiens pas compte. Dire qu'il y aurait un troisième choix revient finalement à ne pas tenir compte de ce que Dieu dit. On voit que ces personnes ne prêtèrent pas attention. Littéralement, ils ne mirent pas sur leur cœur les paroles de l'Éternel. Ce qui est frappant, peut-être aussi un peu troublant, c'est que pour la première fois, très clairement, c'est Dieu qui déclenche les choses. Les fois d'avant, c'est voilà, les poux arrivent, l'eau est changée en sang, etc. Mais il n'y a pas, c'est les éléments naturels, on va dire, qui se déclenchent. Là, on voit clairement que c'est Dieu qui déchaîne. Et comme je disais au tout début, Dieu tout d'un coup, en levant le petit doigt, laisse se déchaîner la foudre, le tonnerre, la grêle. Cette plaie, c'est aussi la première fois où le pharaon va reconnaître qu'il a péché. Ah, on pourrait se dire, enfin, quand même, il est sur le bon chemin. Il confesse avoir péché. Ça ne va pas durer longtemps. vous l'avez lu avec moi, il s'endurcit malgré tout et ne laisse pas partir le peuple pour rendre un culte à Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, va de nouveau accorder un répit au Pharaon. Et Dieu dit clairement, je t'accorde un répit pour que tu saches que la terre m'appartient. C'est aussi comme un message envoyé à l'ennemi de Dieu, à Satan, que la Bible appelle le prince de ce monde. Mais cette terre appartient à Dieu. C'est Dieu qui est le souverain. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Dieu accorde un répit, mais avec ce nouveau répit, le Pharaon s'endurcit à nouveau. Pas que lui, mais lui et tous ses serviteurs. Comme je disais tout à l'heure, les plaies expriment la juste colère d'un Dieu saint, mais d'un Dieu d'amour aussi. Sa colère n'est jamais coupée de sa grâce. Même dans le jardin d'Éden, quand Dieu a exclu Adam et Ève, c'était une manière aussi de mettre fin un jour à leur souffrance. Si Adam et Ève étaient restés dans le jardin d'Éden, ils auraient éternellement souffert de leur rébellion. En les éloignant de l'arbre de vie, il a mis une fin à cette vie terrestre, une fin à cette vie de souffrance entachée du péché. Même dans le jugement, Dieu est un Dieu de grâce. Et finalement, tout dépend du Dieu de grâce. Pourquoi je parle de la grâce au travers de ce passage? Parce que Paul lui-même, dans Romains, reprend ce que Moïse dit à Pharaon pour parler de la grâce de Dieu. Paul y cite le verset 16 dans Romains 9, 17, pour ceux qui voudront vérifier, où il dit en quelque sorte, ce qui compte, ce ne sont pas nos œuvres, ce n'est pas l'obéissance à la loi. Parce que notre respect de la loi est toujours imparfait, et que le respect de la loi, ce n'est pas ce qui va, surtout quand il est imparfait, ce n'est pas ce qui va incliner le cœur de Dieu en notre faveur. Ce qui compte, c'est notre confiance en lui, notre foi. Et comme on peut le lire aussi dans 1 Jean 4, verset 18, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La grâce de Dieu, c'est tout simplement, comme le disait Henri Blocher, l'attitude fondamentale de bienveillance de la part de Dieu. C'est la faveur imméritée qui montre à ceux qui ont agi contre sa volonté. Nous avons tous agi contre la volonté de Dieu. Mais Dieu, qui est fondamentalement bienveillant, nous accorde une faveur imméritée. Le Dieu saint est parfait. Le Dieu qui se met en colère contre le mal nous regarde en même temps avec amour. Il fait don de son salut, de son pardon, de la vie éternelle à celui qui croit, non pas à celui qui mérite, car aucun ne mériterait. Vous connaissez ce verset « Déchargez-vous de tous vos soucis ». Est-ce que vous connaissez le contexte de ce verset ? On va le lire ensemble. C'est dans 1 Pierre. C'est dans 1 Pierre 5 et versets 5 à 10. C'est un beau passage qui s'adresse à tous dans l'Église, parce qu'il s'adresse à la fois aux jeunes et à la fois aux plus anciens, et même d'ailleurs aux responsables d'Église. 1 Pierre 5, verset 5. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la puissante main de Dieu, pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui recherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire, éternel dans l'union à Jésus-Christ vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. C'est le Dieu de toute grâce qui vous accorde son pardon. Une bataille de cœur, un homme endurci qui ne se laisse pas ramollir, entre guillemets, par Dieu, par un Dieu de grâce qui veut sauver. Alors il y a une huitième plaie qui s'ouvre, les sauterelles. C'était un mercredi. Avant d'Est s'est levé subitement. Oh non, je vous rassure, j'ai jamais connu d'invasion de sauterelles. Par contre, quand j'étais en quatrième, il y en a qui connaissent la petite maison dans la prairie. Il y en a qui regardent encore peut-être de passer sur M6, RTL9, je sais pas quoi. Il y en a qui connaissent. Ma maman, elle aimait bien regarder ça l'après-midi. Cette série télé, La petite maison à la prairie, au départ, c'est un livre. C'est même 7 livres, 7 tomes, que j'ai lus quand j'étais en quatrième. Je ne sais pas pourquoi ma mère m'a donné ça à lire, mais c'était sûrement mieux que d'autres choses. J'ai même dû en faire des résumés pour l'école en français. Il y a une chose qui m'a marqué dans cette lecture. Parce que dans la série, c'est beaucoup la vie au village, mais en fait, dans les livres, c'est beaucoup la vie, juste la famille, un peu dans le désert, ou un peu perdue, nulle part ailleurs, ou nulle part, quelque part dans le Far West. Et une chose qui m'a frappé, c'était comment la petite fille racontait ses invasions de sauterelles. Je pense que j'ai encore en tête les images que je me suis faites en lisant, de ces invasions, comment ça devenait tout noir tout d'un coup, et comment quelques heures après, quand les sauterelles repartaient, il n'y avait strictement plus rien, plus une feuille, plus rien. Là, cette huitième plaie nous dit que tout le pays était recouvert par ces sauterelles. Cette plaie nous dit aussi que le cœur de Pharaon est le cœur des serviteurs, des hauts fonctionnaires, était atteint par le péché, était endurci. C'est plus que Pharaon, c'est tout le monde qui est endurci. Je disais tout à l'heure, on a 3 fois 3 plaies, en tout il y en a 10. Mais la dixième, on ne peut pas la couper de la Pâque. La dixième, quand les premiers-nés sont tués, on ne peut pas dissocier ça de l'agneau qui est sacrifié. On ne peut pas dissocier ça de ce que Dieu annonce pour après. Mais dans les 9 plaies, d'avant, là on est à la 8e. Mais quand on lit cette 8e plaie, on comprend que, même pour celui qui lirait pour la première fois, on comprend que c'est quand même bientôt la fin. Il y a comme un basculement. Il n'y a pas que le foot dans la vie, et il y a aussi le Tour de France. Et j'ai pensé à cette image par rapport à cette plaie. Cette 8e plaie, c'est un peu comme quand il y a une échappée dans une étape du Tour de France. Vous savez, il y a des gars qui partent là, sur 150 km tout seuls. Alors au début, on les laisse tranquilles. Hein. Ils partent, ils sont devant, ils se relaient un peu, ils partent, ils ont 50 km d'avance, tranquille. Et puis, arrive un moment donné où il y a sûrement des directeurs de course qui doivent dire « Allez, maintenant les gars, on va les chercher. » Et il y a une attaque qui part, il y a le peloton qui remonte. Et puis, on arrive à un moment... On ne sait jamais trop, en fait, s'ils vont réussir à les rattraper ou si les gars qui sont devant auront assez d'avance pour aller au bout. Et en général, c'est là où c'est intéressant de regarder, parce que le reste, je ne comprends pas que des gens puissent regarder 4 heures des gars qui pédalent sur un vélo. Mais bon. Quand Corentin m'a dit un jour, je veux acheter le jeu sur la console de vélo, je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Appuie sur des boutons pour que le gars il pédale durant 4 heures. En fait, non, il faut gérer l'équipe, les courses et tout, c'est compliqué. Mais le seul moment qui est intéressant, c'est ça. C'est quand... Il y a le basculement. Quand les gars, ceux qui commentent, disent « Bon, là, maintenant, c'est fini, ils vont se faire bouffer. Ils vont se faire rattraper. » En fait, avant la fin de la course, il y a un moment où on sait que soit les gars ils vont au bout et ils seront tout seuls, ou il sera tout seul, s'il y en a un qui est parti tout seul, ou soit il va se faire attraper. Et quand il se fait rattraper, il se fait littéralement avaler. Des fois, c'est 500 mètres avant la fin, mais il se fait avaler et il se retrouve presque derrière. Mais ce que je voulais dire, c'était, l'accent que je voulais mettre, c'était pas Tour de France, c'était que avant la fin, on sait quelle est la fin. On sait que soit il y arrive, soit il n'y arrive pas. Mais on le sait avant, c'est clair. Il y a une tension qui se fait, mais à un moment donné, c'est clair. Il va y arriver ou il n'y arrivera pas. Et là, on est à ce moment-là. On est à l'avant-avant-dernière plaie, mais on sait que là, maintenant, c'est cuit pour Pharaon. Il n'y a plus l'espace de discussion. Pourquoi je dis ça ? Parce que à la première plaie, Dieu a dit à Pharaon, « Tu connaîtras qui je suis. » Et maintenant, il ne le dit pas à Pharaon. Pharaon, c'est fini. Maintenant, c'est le moment de parler aux siens, à son peuple. Maintenant, il dit, Dieu dit, « Vous, mon peuple, vous connaîtrez qui je suis. » Avant d'envoyer Moïse vers Pharaon, comme il avait fait les autres fois, Dieu rappelle à Moïse que tout ce qui est en train de se passer, c'est aussi pour dire, pour raconter à ses propres enfants, à ses petits-enfants, ce qui s'est passé, pour que l'on sache qui est Dieu. L'application, elle est facile pour nous, elle est simple. Pas forcément facile à faire, mais elle est simple. Nous devons raconter fidèlement les actes de rédemption que Dieu a fait dans notre vie à nos enfants, à nos petits-enfants, à ceux qui nous entourent, à ceux qui sont nos voisins, nos familles, nos collègues. On n'est pas tous à l'aise pour parler en public, pas tous orateurs, pas tous prédicateurs. D'ailleurs, ce n'est même pas une obligation pour être ancien dans l'Église, de pouvoir prêcher. Par contre, nous avons tous l'obligation, on est tous appelés à raconter ce que Dieu a fait et fait dans notre vie. À raconter les grandeurs de Dieu dans notre vie. Et à minima, les raconter à ceux qui nous suivent, aux générations qui suivent. Et dans cette plaie, on a le parfait contre-exemple. Finalement. Parce que les gens qui entourent Pharaon vont de nouveau l'interpeller. Pas par les actes, comme la fois d'avant, où certains ont mis à l'abri leur personnel et leur bétail, mais ils vont l'interpeller directement en parole. Mais dans ce qu'ils disent, on voit qu'ils ne sont pas en train de raconter les grandeurs de Dieu. Ils disent, attends, ce Moïse est un piège pour nous. Laisse-le aller. Mais eux aussi ont endurci leur cœur et ne s'attachent pas à voir les grandeurs de Dieu. Alors est-ce que nos enfants, nos petits-enfants, ceux des générations qui nous suivent, entreaperçoivent dans ce que nous pouvons témoigner de la grandeur de Dieu ? C'est vrai que même si on connaît la fin, même si on sait que maintenant, ça a basculé. Pharaon, il essaye quand même encore de négocier. On a l'impression qu'il ne s'est jamais posé la question de ce qui allait se passer. Il dit, mais au fait, vous êtes combien à partir là ? Et il essaie de négocier. Non, il n'y a que les hommes qui vont partir. Entre guillemets, je garde les femmes et les enfants, comme ça je suis sûr que vous revenez. Il n'y a que les hommes qui vont partir. Malgré cette mauvaise foi et ses mauvaises intentions à lui, pas au peuple, contrairement à ce qu'il dit, Dieu fait souffler un vent dans l'autre sens pour refaire partir toutes les sauterelles. Il n'en restait pas une. La grâce de Dieu à nouveau est complète, totale, même quand un pharaon continue à s'entêter. Même si on voit qu'il y a un deuxième aveu de péché, on voit finalement, comme nous l'a rappelé Jean-Jacques aussi avant, que le Pharaon a plus peur des conséquences de son péché que du péché en soi et que de Dieu lui-même. Finalement, dans ce passage, il y a quelque chose de terrible qui est terriblement ironique. Dans ce que dit Pharaon, il va même à dire « Que Dieu soit avec vous ». Il ne le pense pas, mais pas une seconde. C'est lui le Dieu. Mais c'est une double ironie parce que dans la tête de Dieu, dans le cœur de Dieu, c'est vraiment lui le Dieu du peuple. C'est vraiment le cas. Dieu sera avec eux. Dieu est avec eux. Dieu est avec nous. Le Pharaon accuse le peuple d'avoir de mauvaises intentions. Quelle ironie aussi. Mais tout ce qu'il va dire jusqu'à la fin va être, pour Moïse, va être exactement la vérité pour lui. Il va dire à Moïse, « Je ne te reverrai plus, ou la prochaine fois que je te revois, tu vas mourir. » La prochaine fois où ils vont se revoir, Moïse sera de l'autre côté de la mer, les bras levés au ciel, et c'est Pharaon qui va mourir. Ce n'est pas Moïse. Quand les hommes s'entêtent devant Dieu, souvent, Dieu utilise même les paroles de leur bouche comme prophétie contre eux, comme révélation de ce qui lui arrivera. Alors on arrive à la neuvième plaie, la troisième de ce matin. Vous avez vu, ça se raccourcit au fur et à mesure. Et j'arrive bientôt aussi à la fin, pour ceux qui... 3 jours de ténèbres épais. 3 jours où le peuple entier, le peuple d'Égypte, est immobile, nous dit le texte. C'est une belle image du résultat ultime du péché. Quand le péché nous enveloppe, quand le péché nous conduit à la mort, nous sommes et devenons totalement immobiles. Pourtant, il y a eu combien d'arrêts de grâce, combien de fois où Dieu a arrêté ce qui se passait, combien de fois où Dieu a accordé un répit, qui disait à Pharaon et à tout le peuple, comme on le lit dans l'Épître aux Hébreux, « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Combien de fois Dieu a fait passer ce message? Mais Pharaon ne tient pas compte de ces périodes de grâce. Il ne les met pas à profit. Si Dieu patiente, si Dieu parle et parlera encore, même peut-être de plus en plus fort, quand Dieu dit « c'est maintenant », eh bien c'est maintenant qu'il faut saisir l'occasion. C'est maintenant que c'est le moment propice pour le salut. Si ce matin tu entends la voix de Dieu qui te dit « je veux faire la paix avec toi, je veux que tu saches qui je suis, je veux que tu saches qui tu es », n'endurcis pas ton cœur. 3 jours de ténèbres, tout de suite, hein, peut-être à vous aussi, ça vous fait tilt, hein, 3 jours. C'est pas la première fois qu'on a 3 jours qui sont mentionnés dans la Bible. La première fois, c'est avec Joseph, quand il est en prison. Il y a 2 gars qui viennent en prison, que Pharaon a mis en prison. Il y en a un qui s'occupait du vin et l'autre du pain. Les deux font un rêve, la même nuit, et les deux demandent à Joseph d'interpréter ce rêve. Et Joseph va leur dire, « Toi, celui qui s'occupait du vin, le Pharaon va te rétablir, tu seras sauvé. Et toi, celui qui s'occupait du pain, tu vas être décapité, tu vas mourir. » Ça, c'est la première fois où il y a 3 jours qui sont mentionnés dans la Bible. Là, on a de nouveau 3 jours de ténèbres qui annoncent que pour Pharaon, c'est la fin du jugement. En fait, ce n'est pas que la fin du jugement. On verra dans ce qui va se passer après qu'il y a plus que ce jugement. qu'il y a une solution de salut. Ce qui est terrible, c'est que même dans ce moment-là, Pharaon essaye encore de négocier. Plutôt que d'écouter et d'entendre la voix de Dieu, il essaye de négocier. Il pense qu'il doit faire ça pour peut-être ne pas tout perdre. Mais il perd tout. À vouloir avoir le dernier mot, il prononce ce qui sera la condition de sa propre mort. Quand il reverra Moïse, il mourra. Tu l'as dit, mais ce ne sera pas pour Moïse, ce sera pour toi. Ces ténèbres, tout en étant les ténèbres, c'est la pré-annonce, quelque part, de ce qui sera la solution au problème du cœur rebelle de l'homme. Comme on l'aura vu finalement ce matin, si tu appartiens déjà à Dieu, ou si tu aimerais te mettre en règle avec lui, sache qu'il te faut absolument comprendre et accepter la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre tout particulièrement dans ces 3 jours, qui seront les 3 jours où Jonas sera dans le ventre du poisson, qui seront les 3 jours où Jésus sera le vainqueur de la mort. Il nous faut comprendre quelle est la puissance de Dieu dans la résurrection. Parce qu'il y a un héritage qui est accordé à tous ceux qui croient en Jésus, à tous ceux qui se jettent dans les bras de grâce, de miséricorde et de bonté de Dieu. Dieu, il ne cherche pas une bataille, un bras de fer avec toi, avec moi. Ce qu'il a dû faire avec Pharaon, c'est parce que Pharaon avait déjà endurci son cœur, c'est parce que Pharaon devait être jugé. C'est parce qu'au travers de toute cette histoire, Dieu parle plus de la libération de notre péché que de juste la libération de l'esclavage. Quand nous voulons être libres de notre péché, il faut se laisser toucher par la grâce de Dieu. Il faut être à l'écoute et faire sien, attacher à son cœur ce que la parole de Dieu dit. La Bible tout entière, mais notamment ses plaies, nous apprennent que chaque jugement est quand même une grâce de Dieu. Car c'est une occasion de reconnaître ses erreurs, son incapacité à faire le bien, une occasion pour revenir à lui par Jésus-Christ. Le pire du pire, ce serait que Dieu enlève tous ses doigts du ballon de baudruche, qu'il se retire complètement de nous. Peut-être que certains vous diront, ou que vous dites vous-même, mais où il est ton Dieu? Alors comme c'est dit dans Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Il faut, pour être touché par Dieu, véritablement le chercher. J'aimerais prier pour conclure. Seigneur, j'espère que ce que j'ai pu apporter ce matin était fidèle à ta parole, que tu pourras utiliser ce que j'ai partagé pour toucher les cœurs, pour que certains soient libérés, que certains se mettent à ton écoute, qu'on puisse chacun recevoir le cadeau que tu nous fais. Cette vie que tu veux de victoire en victoire, car tu as écrit à ceux qui vaincront, pas à ceux qui se laisseront aller à leur péché. Seigneur, que vraiment nous puissions saisir la main que tu tends, parce que même dans les moments de jugement tragique, comme on peut lire dans la Bible parfois, tu es le Dieu qui fait grâce, tu es le Dieu qui donne du répit. Mais Seigneur, que notre cœur, que dans nos cœurs, nous ne soyons pas comme Pharaon, ou parce qu'il y a un répit, on repousse, on attend encore. Seigneur, aujourd'hui, Je veux moi aussi te dire combien j'ai besoin de toi, combien j'ai besoin que tu affermisses mon cœur, que tu affermisses ma foi, que tu me libères encore du péché qui s'accroche à ma peau. Seigneur, que tu puisses aussi le faire pour mes frères et sœurs ici présents, pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui sont chez eux, qui ont peut-être justement du mal à se confier en toi. Seigneur, que tout ton peuple puisse avoir cet objectif de vraiment vouloir te rendre un culte où tu es le roi des rois, où tu es à l'honneur parce que tu es celui qui fait de grandes choses et que nous voulons nous les rappeler, les raconter à nos enfants, nos petits-enfants, à ceux qui nous entourent. Amen.